Bonjour et bienvenue à Regards Croisés avec Fulgence Blas et
Arlette Farah.
Bonjour Arlette.
Bonjour Fulgence.
Oui, si tu me demandes comment je vais bien avec le soleil.
Eh ben je te demande pas comment tu vas. Mais non, tout va bien. On va parler aujourd'hui, on parle de cinéma, ouais. Fulgence.
Ah oui, oui, on va recevoir la jeune réalisatrice Sarah El Abel qui va nous parler de son court-métrage documentaire Il n'y a pas d'heure pour les femmes.
Ah voilà. Où toutes les heures sont pour les femmes. Oui, j'ai hâte d'en savoir plus.
Et toi, de quoi tu vas nous parler en deuxième partie d'émission ?
Cinéma, Fulgence, parce qu'on reçoit le comédien David Lahaye qui va nous présenter le film La trahison de la puissance divine qui sort cette fin de semaine. Et c'est très, très surprenant, très, très intéressant. Donc, restez avec nous pour l'entendre nous en parler.
Oui, là on part tout de suite en musique avec Tony Allen qui a son album qui va sortir demain. Et oui. Le titre de la pièce qu'on va écouter c'est One in a Million.
Oui.
Unconfessedly chaotic. They wanna call me exotic. A Gemini trying to swim through. My passage may be aquatic. I'm really times in the east wind. I'm asking why they so toxic. The scrolling screen finna pull you. Another app and narcotic. The politicians will stop it. They straying off topic. Toupee will deceive you. They lie if you want it. Care more about robotics and showing off their atomics. The kids getting a lunchtime. It's kinda ironic. My movie peak for noir. And give the cute them the seat. And let them take it afar. We will not fall for defeat. And let the tune hit your scars. And feel the rhythm be riddling through your veins and your blood. I hear the snare as a fiddling. Feel the crash in my heart. But now you're tapping, you're whistling. But do you be listening? Cause you got the power. A one in a million.
Voilà, là on vient d'écouter Tony Allen. Voilà, écoutez, on a déjà notre invité qui est au téléphone, cette jeune réalisatrice québécoise d'origine tunisienne qui va nous parler un peu de son parcours. Mais on l'a invité pour nous parler spécialement de son court-métrage qui a été tourné à Tunis en novembre C'est le synopsis du film. Hein, le synopsis du film. En novembre 2019, des femmes sont rassemblées chez Saïda la coiffeuse à l'aube des élections présidentielles. Le salon est transformé en place publique. En tout cas, moi, je vais dire à Sarah que j'ai beaucoup rigolé quand je l'ai vu. Miroir de l'agitation interne du pays. Dans ce huis clos féminin, on découvre l'adolescence démocratique du pays. Mais avant de lui donner la parole, il va falloir que je la présente. Qui est Sarah? C'est cette jeune réalisatrice québécoise d'origine tunisienne qui sera présentée au prestigieux festival Hot Docs à Toronto dans la section Persister, je ne sais pas, Women Speaking Up and Being Heard. Il sera possible de découvrir aussi le film sur la plateforme des hotdogs.ca depuis le 29 avril jusqu'au 9 mai, partout au Canada. Et puis dans ce rafraîchissement documentaire féministe cinéma vérité de 19 minutes, Sarah retourne avec une petite équipe en Tunisie à un endroit qui a bercé son enfance, le salon de coiffure de Saïda. Et donne la parole aux femmes. Bonjour Saïda. Sarah, pardon.
Bonjour Sarah.
Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va bien, merci. Et vous?
Très bien.
Alors, d'abord pour commencer, merci pour ce beau petit court-métrage. Je l'ai vu, j'ai beaucoup rigolé. T'es comédienne, moi, tellement fait rire. Elles sont drôles.
Merci beaucoup, elle est contente d'entendre ça.
Oui, elles sont toutes drôles, la manière dont elles se traitent les unes les autres, les politiciens. Alors, comment est venue cette idée-là de retourner dans le coin de ton enfance et puis, tiens, braquer la caméra, donner la parole à ces femmes-là?
J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps dans ce salon étant jeune, vu que c'est le salon que ma grand-mère fréquente, que mes tantes fréquentent, et donc même les coiffeuses sont devenues des grandes amies de la famille. Puis j'ai beaucoup aimé les observer étant jeune. Pour moi, elles ont toujours représenté le féminisme, la femme forte. Et suite à la Révolution, quand j'y suis retournée, je me suis rendue compte que les conversations que je trouvais déjà très intéressante là-bas, sont devenues de plus en plus politiques. Puis j'aimais avoir l'avis de ces femmes-là. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire le film là-bas.
Oui. Comment elles t'ont accueilli? Quand tu es arrivée et puis avec ton équipe de Montréal, et puis elles ont vu toute l'équipe de cinéma, comment elles ont réagi? Elles étaient contentes, elles ont dit « qu'est-ce qu'elle va faire avec nous? »
Elles ont été super accueillante. En fait, moi, j'étais allée quelques mois auparavant avec une petite caméra photo. Donc, vu que la plupart des clientes sont des régulières, elles attendaient mon retour. Ah. Donc, non, elles étaient très, très contentes. Puis, d'une part, parce que Saïda, qui est la propriétaire du salon, est très appréciée de ses clientes. Donc, peu importe ce qu'elle demande à ses clientes, vu qu'on avait son aval à elle, tout le monde a voulu participer. Puis ensuite, ma grand-mère, qui est une figure très, très marquante de notre quartier, quand les gens ont su que j'étais sa petite-fille, ils ont accepté vraiment très facilement. Puis je pense que quand on a compris c'était quoi les thèmes abordés dans le film, elles avaient vraiment envie de se célébrer. Et oui. C'est ça. Donc, elles ont vraiment accepté de participer très facilement.
Oui, oui. Donc, cette grand-mère, c'était une manière pour toi de l'immortaliser, quoi.
Bon. Absolument. Elle a toujours été une grande source d'inspiration. Je pense même être en cinéma à cause d'elle parce que c'est un personnage. Donc voilà. Donc j'avais vraiment envie de faire ce film et de lui donner une petite place là-dedans.
Oui. Oui. Arlette, tu voulais te demander quelque chose?
Non, bonjour d'abord. Et puis, j'aime beaucoup le titre « Il n'y a pas d'heure pour les femmes ». J'avais envie de rajouter « Toutes les heures sont pour les femmes ».
Oui, c'est ce que tu as dit hier en début d'émission. Ouais. D'ailleurs, en début d'émission.
Oui. En fait, c'est une phrase qu'une cliente a sortie par hasard. On avait une grande discussion sur justement la Tunisie, la politique, sur le féminisme, etc. Et puis, elle nous a juste regardé et elle a dit « Mais vous savez, il n'y a pas d'heure pour les femmes ». J'étais comme « Ah, on a notre titre ».
Parfait.
Oui, ouais, oui. C'est clair.
Sarah, quand tu dis au fond, en Tunisie, la condition de la femme en Tunisie relève de l'intime pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Je pense que, en fait, ce que j'ai toujours trouvé très intéressant en grandissant, c'est quand je suis arrivée au Québec, les gens avaient une perception assez erronée de ce qu'était la Tunisie, de ce qu'était la femme. On s'imaginait que ma mère serait d'une certaine manière. On s'imaginait que mes tantes seraient d'une certaine manière. On s'imaginait que j'étais éduquée d'une certaine manière. Puis je me suis rendue compte qu'il y avait beaucoup de quant au rôle de la femme et à la place de la femme dans la société tunisienne, dans les sociétés arabes en général, mais particulièrement en Tunisie. Mm-hmm. Donc, j'avais vraiment envie de... Je trouvais ça très important de mettre en lumière cette condition de la femme qui est très, très avancée par rapport au reste du monde arabe et qui, pendant longtemps, était même à l'avant-garde par rapport aux pays européens ou aux pays américains, mm-hmm. ne serait-ce que pour le droit de vote ou le droit à l'avortement, la contraception, etc. Il y a beaucoup de choses dont on ne se doute pas. Donc, c'est un peu ça que j'essayais de présenter.
Ah ouais, 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 parce que non, j'ai beaucoup ri, et puis bon, mais c'est des femmes crues quand même, elles vont pas avec le dos de la cuillère entre elles, et puis la manière dont elles parlent de nous les hommes, je me suis dit, bon ben les pauvres Tunisiens qui les côtoient ces femmes-là, alors Sarah, on va faire une petite pause musicale.
Oui.
Et puis, on va revenir sur ton parcours de cinéma de réalisatrice. Ouais, ouais.
Parfait.
À tout à l'heure.
Je suis dans le loup, prisonnier de la boucle.
Tu es dans le loup,
ça ne fait pas de doute.
Je suis dans le loup,
il y a comme un trouble.
On est dans le loup,
les journées se dédoublent.
Tu es dans le loup,
ça ne fait pas de doute.
Je suis dans le loup,
il y a comme un trouble.
On est dans le loup,
les journées se dédoublent. Je suis dans le loup.
Dans le loup, dans le loup, dans le loup, dans
le
loup.
Le réveil a sonné, c'est la même journée.
Dans le loup, on est dans le loup.
Ou alors j'ai rêvé, c'est la même.
De la boucle.
Tu es dans le loup,
ça ne fait pas de doute.
Je suis dans le loup,
il y a comme un trouble.
On est dans le loup,
les journées se dédoublent.
Un jour qui paraît sans fin, toujours le même refrain. Tel des pantins du destin, on sort du loup à la fin. Un jour qui paraît sans fin, toujours le même refrain. Tel des pantins du destin, on sort du loup à la fin. Échapper, c'est la même journée.
Dans le loop, on est dans le loop.
Je commence à flipper, c'est la même journée.
Dans le loop, dans le loop.
Si le temps a bugué, c'est la même journée.
Dans le loop, on est dans le loop.
Le réveil a sonné, c'est la même journée.
Dans le loop, dans le loop.
Un jour qui paraît sans fin. Toujours
dans le loop.
Le même refrain.
Dans le loop, hey.
Tel des
dans le loop,
pantin du destin.
Dans
le loop,
hey. On sort dans le loop,
hey. Du loop à la fin.
Dans le loop, dans
le loop. Hey. Le réveil a sonné, c'est la même journée.
Dans le loop, on est dans le loop.
Ou alors j'ai rêvé, c'est la même journée.
Dans le loop, dans le loop.
Depuis qu'un but me rêve, c'est la même journée.
Dans le loop, on est dans le loop.
Je peux pas l'oublier, c'est la même.
Ouais, c'était Radio Cassette dans le loop. Voilà, je ne sais pas de quoi il veut parler. Ouais, Arlette. On va continuer avec notre invitée qui est encore avec nous, Sarah El Abed. Sarah ?
Oui.
Qu'est-ce qui ça t'a attiré vers la réalisation du documentaire ou bien le film, le cinéma ?
C'est drôle quand même. J'ai toujours fait beaucoup de théâtre. Donc pendant longtemps, étant jeune, je pensais vraiment devenir actrice. Donc j'ai toujours choisi, je suis allée au Cégep en Maurice, j'ai toujours fait des choix en fait qui étaient dans le milieu artistique sans jamais vraiment savoir que le cinéma c'était mon truc. J'ai jamais été vraiment cinéphile, j'ai jamais regardé vraiment de films. Puis c'est à travers un cours d'histoire du cinéma à l'université que j'ai vraiment eu la piqûre.
Oui.
Puis ensuite, quand j'ai un peu découvert c'est quoi les différents rôles et tout, ce que j'aime beaucoup de la réalisation, c'est En fait, ce que j'aime du cinéma, point, c'est d'avoir la possibilité de raconter des histoires. Puis en tant que réal, ben, c'est un peu la personne qui m'a toutes ces histoires-là avec l'aide de tous les collaborateurs. Fait que c'est ce que je trouve vraiment intéressant. Que ce soit en documentaire ou en fiction, j'aime juste raconter des histoires.
tu juste raconter des histoires.
Ouais.
Voilà. Et puis quand je vois ici, bon, ben, par exemple, quelle est la collaboration avec Travelling, cette compagnie-là?
Oui. Alors en fait, Travelling, c'est une compagnie de distribution. Donc c'est eux, lorsque le film est terminé, qui se chargent de donner une vie au film. Donc ils font les envois en festival. En fait, c'est eux qui, avec leur compréhension du produit fini, vont lui permettre d'avoir une vie. Donc, ils vont trouver des chaînes de télé qui vont être intéressées à le passer ou des festivals qui cherchent ce genre de contenu-là. Donc, en fait, on leur avait envoyé le projet en amont avant même de le tourner.
Ah bon?
Puis ils étaient vraiment intéressés par l'idée. Donc, ils nous ont dit, ben, revenez nous voir quand vous avez un projet fini. Puis, ben, quand ils ont vu le projet, ils étaient vraiment intéressés. Donc, c'est eux qui se chargent vraiment de tout ce qui se passe en ce moment après le montage du film.
Oui, oui. Et ils t'ont permis d'ailleurs d'être présent au plus important, des festivals les plus importants au monde. Mm-hmm. Par exemple, Don't Doc, de Leipzig, le Rhythm et puis le Slam Dance et le Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand, en plus.
Ouais.
C'est mérité une mention spéciale là-bas de court documentaire à Slam Dance et récemment remporté le prix du meilleur court-métrage au festival Filministe. Ça, je n'ai jamais entendu parler. C'est quoi ça, le Filministe?
Ah, c'est un festival à Montréal. En fait, et ça fait peut-être, je pense qu'ils sont à leur 6e édition. Puis c'est en fait, c'est des films, c'est tout film. Qui met en lumière des groupes sous-représentés au cinéma. Donc, c'est pas nécessairement juste féministe, c'est vraiment tout groupe sous-représenté au cinéma. C'est vraiment intéressant. C'est une belle programmation
féministe.
À cette année.
Arlette, t'as déjà entendu parler de ça?
Oui.
Je suis un filministe. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, mais je connais pas ce festival. On n'arrête pas. L'école de la vie, c'est la meilleure école de la vie. Alors, comment on se sent? Vas-y.
Après, je reviendrai peut-être sur le...
Sur le documentaire?
Sur le documentaire, parce que j'aurais une question là-dessus.
Vas-y.
Je voulais savoir, en fait, Sarah, est-ce que tu as vu une... Comment était le salon de coiffure de ta grand-mère? Comment est le salon de coiffure de ta grand-mère aujourd'hui par rapport à quand tu étais petite?
Alors, c'est pas son salon de coiffure. C'est le salon de coiffure où est-ce qu'elle va se faire coiffer depuis toujours.
Ah, d'accord. Elle est cliente. Ouais. J'ai cru qu'elle était propriétaire du... D'accord.
Non, c'est la cliente. Le salon, c'est ça qui est drôle. Ils sont comme arrêtés dans le temps, ne serait-ce que dans le style de coiffure ou dans la façon de se tenir des femmes. Il y a quelque
c'est ce que je me suis dit d'ailleurs. Vas-y.
Les idées, je me rappelle quand j'étais jeune, c'était une chose. Maintenant, elles sont toutes sur leur téléphone, puis elles sont vraiment au fait de ce qui se passe sur Facebook, l'actualité politique sur Facebook. Mettons, c'est comme. Fait que oui, il y a comme une évolution de la.
Il y a une évolution sans en avoir une.
Exactement. C'est pour ça que c'est magique, c'est qu'il y a un côté très rétro, elles sont vraiment restées arrêtées dans le temps.
D'accord, merci.
Et c'est des femmes qui s'intéressent tellement à l'actualité, à la politique aussi, avec cette histoire d'élection là. Ça m'a tellement fait rire. Et elles étaient en train de bitcher les différents candidats. Tu me permets le terme.
En fait, c'est que, étant donné qu'on a été sous dictature pendant vraiment longtemps, la révolution a vraiment libéré la parole et ça fait en sorte que tout le monde s'y intéresse, que tout le monde a envie de voter, que tout le monde a son mot à dire parce que pendant des années, ça se faisait pas.
Oui. Moi, personnellement,
c'est formidable, en tout cas.
Oui, je te dis
intéressant
bravo,
à savoir.
Intéressant à savoir. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares pour les années ou les mois à venir, ou bien les années à venir, ou bien tu n'as même pas encore fini peut-être de fêter ce court-métrage avec.
Le film continue de se promener. On a d'autres belles choses qui arrivent pour le film. Pour l'instant, on garde ça, on doit garder ça secret, mais il y a encore des belles affaires qui arrivent pour le film. Puis sinon, moi, je suis en train d'écrire mon premier long-métrage de fiction. Je prépare un nouveau long métrage documentaire. Donc c'est ça. Mais pour l'instant, je peux pas vous en dire plus, mais je travaille fort sur de nouveaux projets.
Oui, quand on parle du long métrage, c'est minimum 1h28, 1h30, quelque chose comme ça. Hein?
Ouais.
Oh, wow. Alors,
ouais.
Le budget est déjà prêt?
Non, pas encore. On est en période de, on est en développement, donc là, on est plus en train de l'écrire pour pouvoir savoir exactement de combien d'argent on a besoin.
Oui.
Ah, comment ça, c'est le nerf de la guerre, l'argent.
C'est le nerf de la guerre, merci Arlette.
<Évidemment.
rire> Comment s'est passé le financement du court-métrage?
On a fait des dépôts, en fait, à plusieurs instances gouvernementales, dont la SEDEC et le CALC. Puis, en fait, avec la SEDEC, ça a fonctionné. Donc, il fallait monter un dépôt avec déjà une idée assez précise de ce qu'on voulait faire. Donc, si vous lisiez le dépôt, vous y verriez le film. Il y a quelques différences, mais sinon, c'est sensiblement la même chose. Puis, c'est comme ça qu'on a réussi à chercher du financement pour pouvoir faire le projet. Mmh. C'est pas des grands montants, mais c'est assez pour pouvoir faire des films.
Est-ce que Sarah arrive à vivre de son art, de sa caméra?
Oui.
La question qui tue.
Il y avait comme une petite hésitation avant.
Ben, c'est que ça dépend. Ça dépend. C'est vraiment difficile. Il y a beaucoup de gens qui réussissent à le faire. Je pense que le truc, c'est d'avoir le plus de projets possible.
C'est ça. Ouais.
D'essayer de faire des demandes de subventions, d'économiser. Puis ensuite, c'est sûr qu'après, en faisant des petits projets qui nous tiennent peut-être un peu moins à cœur, mais où est-ce qu'il y a des sous, tu sais, plus des projets moins créatifs, on peut réussir à faire nos projets qu'on aime plus, mettons.
Est-ce que tes parents, toi, se sont dit, mais dans quoi tu te lances, toi?
Ah, absolument. Ils ne comprenaient pas. Ils étaient vraiment pas d'accord avec ma décision, mais j'étais vraiment convaincue. Puis c'est drôle. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai réussi à faire ce métier-là. Je pense que j'ai jamais vraiment eu peur. C'est une crainte que c'est la peur qui peut paralyser certaines personnes face à l'incertitude ou ce genre de. Moi, j'ai jamais vraiment eu peur de ça. J'ai plein de choses dans la vie. J'ai jamais eu peur de ça. Donc, ça m'a permis de me lancer sans vraiment trop y réfléchir.
Mmh. Ils doivent être fiers de toi maintenant. Oui, Arlette.
Ouais. Moi, je l'ai pas vu et je peux le voir où?
Le film est en ce moment il est disponible sur la plateforme de Hot Docs, sur la plateforme des Rendez-vous Québec Cinéma. Mmh. Puis bon, sinon, si vous n'arrivez pas à le voir, je peux toujours vous envoyer un petit lien en privé.
Oui, je vais lui transférer. Je vais lui transférer le lien. Mmh. C'est Hot Docs, c'est hotdocs.ca.
Ouais.
Ouais, pour ceux qui... Arlette, je vais te transférer le lien et le mot de passe.
Oui, .ca.
Tu pourras voir.
Voilà. Merci.
Alors, un dernier mot à ceux qui nous écoutent, comment tu peux leur demander d'aller voir ton tout court documentaire. Moi, je l'ai adoré. Voilà.
Merci beaucoup. Ben, écoutez, jusqu'à demain, il sera disponible sur la plateforme des Rendez-vous Québec Cinéma, un festival à Montréal. Mm-hmm. Sinon, il est disponible jusqu'à demain également sur Hot Docs. Puis, si vous voulez avoir des nouvelles de quand il passera à d'autres moments, il faut s'abonner à la page Facebook du film. Donc, c'est Il n'y a pas d'heure pour les femmes, tout simplement. Mmh. Et là, on met toutes les nouvelles, les projections, les festivals qu'on fait, et voilà.
Ouais. Okay. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Sarah El Abed pour son cours. Oui, vas-y,
Arlette. Bonne continuation, j'allais dire bonne continuation pour le long métrage.
Oui. Ah oui. Oh, moi, j'attends ça avec patience. Je dis bon vent à toi, Sarah El Abed.
Merci.
Et puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès.
Merci beaucoup. C'est très gentil.
À bientôt. Merci, bye bye. Au revoir. Elle ne prend plus de Valium, le printemps là. Sébastien Lafleur, ma tronche. C'est pas ma tronche à moi, Fulgence. C'est pas de la tronche, c'est la tronche à lui.
Voilà. C'est la tronche à lui. Restez avec nous, parce que dans la prochaine demi-heure, ben, on a rendez-vous avec David Lahaye pour parler cinéma. Donc, ne quittez pas, surtout. Et puis, on continue à rêver, on continue à parler de films, de cinéma, de rôles, de personnages. Vous allez voir, c'est toute une histoire. À tout de suite.
J'ai hâte de découvrir son histoire.
À tout de suite.
Regards croisés avec Arlette Farah et Fulgence Blas.
J'aurais pas dû partir sans dire je t'aime, mais j'aurais pu partir sans faire une scène. Les deux assis en larmes sur le canapé, et moi fatigué, mal rasé. Je me suis levé, j'ai claqué la porte. J'ai laissé ma brosse à dents avec la tienne, celle que j'utilisais les week-ends. Et j'ai pas eu le courage de la retirer. Quand je les ai vus les deux à côté, je me suis levé, j'ai claqué la porte. J'ai claqué la porte, 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 il fallait que je sorte, j'ai claqué la porte. Maintenant je t'écris d'une chambre d'hôtel, et les mois ont passé, et pas de nouvelles. Mais j'ai jamais arrêté de penser à tes cheveux sur l'oreiller. Quand je me suis levé et j'ai claqué la porte. Et si jamais un bon vent nous ramène, et on se revoit dans une vie lointaine, si tu hésites avant de m'approcher, sache que je serai un homme changé qui va pas se lever et claquer la porte. C'est dire que j'ai eu le temps de regretter le soir où je me suis emporté. Quand je me suis levé et j'ai claqué la porte. J'ai claqué la porte, 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 il fallait que je sorte, j'ai claqué la porte, 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 il fallait que je sorte, j'ai claqué la porte.
Alors on vient d'entendre Chroméo qui chantait « J'ai claqué la porte ». Et comme promis en début d'émission, bien nous sommes avec le comédien David Lahaye. Bonjour David.
Bonjour Arlette, ça va?
Oh, bonjour, ça David. Va David, j'ai tellement de choses à dire. D'abord, sur ce film « La trahison de la puissance divine », alors je trouve que c'est un film puissant. Et puis je vais me permettre de vous dire tout à la fois, tout de suite, félicitations et j'ai détesté votre personnage. Pour après... pour après comprendre un petit peu plus sa douleur et sa colère.
D'accord. Mais je suis très content parce que j'essaie le plus possible de faire des personnages qui sont vraiment basés sur une émotion profonde. Alors ce personnage-là, évidemment, il est très confrontatif, très très dur avec les autres, mais ça vient d'un désespoir, d'une solitude, d'une
douleur qu'on comprend après. Douleur.
Exactement. Et d'un alcoolisme et d'une bipolarité. Donc, il est très, très, très... c'est une épave. Là. C'est un être en perdition.
En tout cas, super bien joué. Je vous ai haï. Au départ.
<C'est bon.
rire> Est-ce que je vous laisse faire le pitch pour raconter un petit peu de l'histoire du film?
Oui, ben tout à fait. Écoutez, le film s'appelle La trahison de la providence divine, qui est en français et en anglais, et qui sort au Québec demain. Et c'est l'histoire d'une jeune adolescente de 16 ans qui développe subitement des stigmates au poignet et des marques au front, un peu comme le Christ, et qui va être kidnappée par un personnage très étrange, très mystérieux. Et à partir de ces événements très, très, très bizarres, il y a plusieurs factions religieuses d'un petit village, d'une communauté francophone manitobaine qui vont essayer de se disputer et de tirer profit, de monétiser ces espèces de miracles surnaturels. Dont mon personnage, qui est le père de cette adolescente-là, mmh. et qui va essayer de monétiser toute la popularité qui entoure ce phénomène étrange-là.
Pas plus que les autres. Mais en même temps, je veux quand même me donner mon avis à moi. J'ai trouvé que dans ce film, ça décrivait la foi sous son plus mauvais jour et dans ce qu'elle a de pire. Voilà.
Oui, c'est vrai. Et c'est un film sur l'intégrité qui questionne la foi, les croyances. Est-ce qu'on est dans l'individualisme complet ou dans le communautarisme? Est-ce que la vertu, le respect de l'autre, est-ce que c'est respecté ou on est juste là pour essayer de s'en sortir soi-même? Donc, et c'est intéressant parce que c'est un personnage en plus qui est bipolaire, qui est alcoolique. Mais
il est métisse, hein. Oui. C'est surtout ça, c'est la deuxième histoire dans l'histoire.
Oui, c'est ça, il est tiraillé entre ses croyances autochtones et aussi sa conversion au catholicisme. Il est tiraillé entre ses frères autochtones qui viennent le voir pour le supporter quand sa fille a ces espèces de stigmates-là. Et en même temps, il les rejette en disant que lui, il n'y a que le Christ qui compte dans sa vie. Mais tout ça, c'est un petit peu des péquilles un peu extérieures parce que il n'applique pas les fondements de bienveillance qu'on lui a inculqué via le catholicisme. Oui. Donc, c'est un peu là-dessus. Hein? Le réalisateur, Jeremy Torrey, est un autochtone. Et il a voulu illustrer cette espèce de schisme-là entre la culture, la croyance autochtone et aussi la conversion au catholicisme.
Mais vous savez quoi? C'est super bien fait. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était super bien fait. Et la manière dont c'est amené, la manière dont il le regarde, c'est que sa caméra est en train de nous regarder, nous, comment on réagit en demandant des miracles, on les veut, et quand ils sont là, quand on les voit, quand il y a l'honnêteté derrière, tout le monde s'enfuit.
Oui, et, exactement.
C'est énorme, quoi.
Oui, c'est ça. Plus c'est évident, plus les gens ne veulent pas y croire. Et en même temps, ils croient à des choses qui ne sont pas évidentes, qui ne sont pas là, qui ne sont pas visibles. Donc, c'est vraiment sur la foi, sur les croyances, sur les religions. Et c'est rare, quand j'ai lu ce scénario-là, qu'on parle de religion et de stigmates, de d'épines au front qui fait saigner la jeune adolescente. C'est très, très, très particulier. Et aussi, qui vit la vie après la mort. Elle a été morte pendant 12 minutes dans le film. Donc, c'est très particulier. Donc, c'est très mystique, en fait. C'est un thriller surnaturel qui va plaire beaucoup.
Ah, j'adore. Comment vous l'avez vécu, ce rôle, vous?
Ben, moi, j'ai trouvé ça très, très lourd à porter parce qu'évidemment, si on y va à fond, étant un personnage...
Dieu sait que vous y êtes allé.
Oui, excessivement troublé, alcoolique, bipolaire, qui est toujours en confrontation avec sa femme, avec ses frères autochtones et tout ça. C'est un personnage qui a beaucoup, beaucoup de difficultés à s'en sortir. C'est un personnage qui est en mode de survie au niveau économique. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à payer ses bills. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vivre, à mettre de la bouffe sur la table de ses enfants. Donc, il est très, très, très mal pris. Alors, de porter un personnage aussi lourd, aussi complexe, aussi désespéré, seul, c'est très lourd pour un acteur. Mais en même temps, quand on se donne complètement et qu'il y a une gratification par les gens de l'équipe, par le réalisateur, et qu'on sent que les scènes sont justement nourries par un intérieur fort, c'est très gratifiant pour un acteur. C'est un personnage très, très... quasiment shakespearien, là. C'est tellement lourd, c'est tellement dans la folie, dans la démence, dans la bipolarité, dans l'alcoolisme, que c'est pas un personnage calqué, là, qui est plaqué. Il faut y aller à fond. Tu sais. Donc, c'est très jouissif pour un acteur, c'est du bonbon.
Oui, tout y est dans le regard, le silence, toute cette violence qu'on sent à l'intérieur du ventre et qui ne sort pas encore au début, là, c'est impressionnant.
Ah ben merci, merci.
C'est vraiment félicitations pour ça. Et puis, quand... Et puis on va parler des prix qu'il y a eu dans les festivals, etc. Puis mon collègue aura une question pour vous aussi. Mais oui. on fera une pause musicale, si oui. ça ne vous dérange pas. Et puis on se retrouve tout de suite après.
Parfait,
tout donc on va entendre Lumière qui nous chante Amitié déçue. Puis après on va parler des festivals, des prix, parce que vous avez eu aussi le prix du meilleur acteur. Donc ça, oui. c'est pas rien non plus. On en parle dans un instant et musique tout de suite.
J'ai faibli dans le désordre. Au téléphone, fixé le sol quand le silence a couru. Tu m'as fait marcher dans tes idées. Maintenant que tu m'as eu, tu chantonnais. Toute ma vie, j'ai trop dit oui. Mais ce soir, je resterai ici dans tes mes repas. T'as aucune chance, je me suis mis au lit. Dehors, il pleut des cordes et j'ai perdu mon kiwi. Amitié déchue, en retard, pieds nus mordus, me récassant. Prétendant que tout va bien. Tu m'as eu, mon vieil ami. Tes paroles m'ont touché dans le haut. Combien bien intentionné. Est-ce que c'est moi qui ferme tout? C'est toi qui ne m'as jamais rien donné. Au risque de tout manquer, j'envisage la possibilité de ne plus jamais te voir. Je me tiolerai coquelicot de mai. Ah, ça pique dans mes yeux, mon chien grandit par les cheveux. Tu te manifestes abstrait, dessine autour de moi à la craie du front jusque dans les talons. Maintenant que j'y dis non, même si toujours tu veux avoir raison, mes grands cœurs fleuriront pour du bon.
Amitié déchue, voilà. Donc David, oui. Reparlons de ce prix du meilleur acteur au festival du film du Colorado, c'est ça?
Je crois que c'est oui, au Frostbite International Film Festival.
Oui, j'aime mieux quand c'est vous qui le prononcez que moi.
En fait, c'est bien parce que le film, notamment le film comme tel, a gagné le meilleur long métrage au Garden State oui. Film Festival, au Frostbite Film Festival et aussi au Bare Bones International Film Festival. Et je sais aussi qu'on est en nomination, le film et moi en tant qu'acteur, pour le Festival international de Nice, qui va avoir lieu à la fin mai, début juin. Donc, je suis content de voir que le...
Bravo!
Bravo!
Oui, le film est primé dans différents festivals. Et pour un film de genre, on s'entend, c'est un film de genre particulier, surnaturel et tout ça. Donc, je suis très content que ça a fait mouche.
Mais en même temps, l'angle par lequel il pose l'histoire du film est très intéressante.
Oui, c'est aussi un constat social. C'est aussi oui. une critique de, encore une fois, des religions, des sociétés, des villages aussi. Et c'est aussi, par le fait même, une espèce de portrait d'une communauté francophone dans une mer d'anglophones autour, le Canada, c'est une communauté franco-manitobaine qui oui. sont aussi en perdition, qui sont oui. aussi en voie d'extinction. Donc, c'est intéressant de faire la lumière là-dessus. C'est un film particulier qui marche bien. Donc, je suis très content que les prix soient là pour le prouver.
Oui. Jean, c'est une question pour vous.
Oui. David.
Oui.
Quand on joue un personnage comme ça, si étrange, après le tournage, comment on fait, comment le comédien fait pour retrouver sa vie normale?
Ben, c'est une bonne
pour
question.
Pour se débarrasser de cette tenue, de cette
l'habitude.
Coquille. Voilà.
Ouais, ben c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'on ne se prend jamais pour le personnage. Il y a pas de, on n'est pas dans un mode schizophrénique, là, comme je dirais, mais c'est sûr qu'à force d'aller chercher à l'intérieur une vulnérabilité, une violence, un désespoir, une solitude, on devient comme une éponge. À force de défendre ces sentiments, ces émotions-là tous les jours, on devient comme un peu plus lourd, plus... Ma voix changeait même, bizarrement, ma voix changeait durant le tournage. Et par la suite, toujours à la fin d'un tournage, quand on a un personnage aussi intense, on a toujours une espèce de spleen, une espèce de petite dépression après tournage de 2, 3, 4 jours où est-ce qu'on se sent un peu comme déphasé par rapport au monde. Heureusement, ça dure juste 2, 3 jours.
Oui.
C'est vrai, il y a une espèce de contact avec la réalité, avec la légèreté de la vie, où est-ce que, parce qu'on est comme immergé, une immersion dans un monde tellement trouble que 2, 3 jours après, on est dans une espèce de monde un peu parallèle. C'est très bizarre. Au niveau émotionnel, en fait, au niveau... c'est une espèce de spleen, une espèce de comme un postpartum, d'avoir mis au monde un personnage et de s'en débarrasser.
C'est ça.
Et après ça, d'avoir des séquelles de ces émotions-là, en fait.
Voilà. Ouais. Vous connaissez ce que fait l'accouchement.
Voilà.
quels sont vos projets maintenant sortis de...
Ben, en ce moment, je suis sur le projet de la télésérie Les Honorables avec Patrick Huard, Macha Grenon et Mylène Mekkay. Alors, je fais un psychiatre qui est en deuil de son fils qui est mort d'une overdose de drogue.
Wow.
Donc, alors, c'est un autre personnage.
Encore
assez
tout
intense.
Un personnage.
Oui. Et je fais aussi, aux côtés de Marie-Pierre Morin, je joue le ministre des Finances dans le film Arlette, d'ailleurs, qui porte votre nom.
Ah, d'accord.
Là, ça va, Arlette, avec les finances.
Je vais aller le voir.
Oui. David, les finances, oui.
On a donné une première partie à Québec, et là, on retourne cet été et au mois d'août, finaliser le film, parce qu'ils ont besoin de séquences d'été. Alors, et on retourne à Québec juillet et août pour faire le... Alors, c'est les deux projets sur lesquels je travaille en ce moment. Donc, j'ai beaucoup de textes à apprendre, donc j'apprends beaucoup de textes en ce moment.
Est-ce que le deuxième film, est-ce que c'est un personnage fort aussi?
Oui, ben en fait, c'est le personnage qui s'oppose. Arlette étant jouée par Marie-Pierre Morin, qui est le lead, qui est le personnage central du film.
Oui.
Moi, je suis le ministre des Finances qui veut mettre des bâtons dans les roues à la ministre de la Culture qui est jouée par Marie-Pierre. Ah. Alors, je suis un peu son antagonisme.
Un ministre normal, quoi. Oublions ce que j'ai dit.
Il coupe dans les programmes sociaux et dans la culture, donc il est dur, donc il est un peu à l'antipode de moi, mais j'aime pas des rôles de composition.
Je pense que le ministre des Finances est quelqu'un qui est habitué d'avoir beaucoup plus d'argent dans sa caisse que dans nos poches, quoi. Voilà.
Ah mais non, mais pour la culture, c'est vraiment dur. Bon, enfin, voilà. Bref, on va pas partir là-dessus. Comment s'était passé votre... Vous connaissiez déjà Jérémy Tori? Avant
non,
de faire ce film?
Je l'ai connu en 2017 quand il a contacté mon agente au Canada anglais. Et j'étais très, très, très surpris et agréablement surpris parce que il a vu mon démo, il a vu ce que j'ai fait, il avait cherché un peu sur Internet, il cherchait un franco-manitobain, il cherchait un acteur francophone. Et il m'a offert le rôle, ce qui m'arrive rarement au Québec. Il a fallu que ce soit un Canadien anglais qui m'offre le rôle sur la base d'avoir vu mon démo.
Comme quoi, tout arrive.
Et donc, je me suis vraiment défoncé pour lui parce que quand on t'offre un cadeau comme ça d'un personnage aussi dense, aussi profond, aussi lourd, aussi avec autant à jouer que... Donc, et c'est pour ça que je suis content que le film marche bien et que le personnage soit bien accueilli, en fait.
Parce que s'il avait fallu, quand on sait un peu ce que vous avez fait, que vous avez été nommé pour des prix Génie, enfin vous avez fait autant à la télé qu'au cinéma, moi je vous ai vu dans des personnages assez costauds,
oui,
donc je trouvais que ça vous allait parfaitement bien de jouer ce rôle-là.
Oui, tout à fait. Non, moi aussi, je trouvais qu'il y a une mise juste parce que c'est vraiment ma tasse de thé, là, ce genre de personnage trouble-là. Et en plus, qui me permettait de composer quelque chose. Il était très, très, très ouvert à mes suggestions. C'est vraiment un travail d'équipe avec lui et avec les autres acteurs aussi. Il y avait de quoi faire avec ce personnage-là. Puis en plus, qui est carrément désespéré, qui essaie aussi de faire de la magouille, qui est un arriviste quelque part et qui est un opportuniste. Et en même temps, qui essaie de se raccrocher à la foi, qui espère s'en sortir, qui espère avoir un futur meilleur. Donc, c'est un personnage très, très, très... quelque chose de shakespearien, de tchékovien.
Oui, c'était quelqu'un de troublé, quoi.
Mais en même temps, il perd pas le nord, parce qu'il voit très bien derrière la foi tout ce qui se dessine et les intérêts financiers qui sont purement financiers ou reconnaissance, en tout cas télévisuelle, peu importe. Et qui se cache derrière ça, quoi. C'est pas parce que la foi pure n'aurait pas mené à cette hécatombe.
Voilà, et c'est carrément aussi la deuxième idée du film, c'est carrément est-ce qu'on est vraiment intègre quand on est on suit une religion, quand on a la foi en une religion et qu'en même temps on est aussi opportuniste et arriviste et mercantile quand quelque chose se présente devant nous, tu sais, et qu'on est pour l'individualisme plus que pour le communautarisme, ça pose cette question-là qui est importante.
C'est important, puis c'est la vue qu'il en a, en tout cas, pour moi, ma réaction a été dans ce que j'ai vu, c'est qu'il tournait cette histoire comme la jeune fille qui est là est vraiment pure et nette dans son rôle. Elle est honnête totalement dans son rôle. C'est comme s'il prenait à l'envers et que ce soit vraiment ce qui arrive et qu'on regarde comment les gens réagissent, comment le peuple réagit, comment chacun d'entre nous réagit entre ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas.
Oui, voilà. Et à la fin, elle retrouve cette pureté-là. Donc, oui, tout à fait. C'est vraiment un passage initiatique pour elle. Donc, et surtout, les gens autour essaient de tirer profit, de monétiser ce qui lui arrive. Quand elle est un peu la victime de tout ça. Elle est un peu comme possédée quelque part.
Et puis, j'ai envie de dire, quand vous irez voir le film, m'adressant aux auditrices, aux auditeurs, ne perdez pas de vue la dernière image, la toute dernière image, le changement de regard du père, donc, de David, de la mère, enfin tout. C'est très beau à voir.
Oui, ah ben oui, c'est très...
Moi, j'ai bien hâte de le voir.
C'est un beau message, vraiment.
Bon, mais c'est bien. Je suis très content que vous ayez aimé ça.
Oui, parce que, en fait, je vais vous dire, le titre ne m'avait pas induite... au moment où j'ai lu La trahison de la providence divine, je ne pensais pas trouver quelque chose comme ça. Et plus les images avançaient, et plus j'étais passionnée par le... J'étais intéressée par ce qui se passait, et par les personnages.
Oui, c'est un thriller surnaturel, mais très dense au niveau social et au niveau de ce que ça a à dire, au niveau de la société et de la foi, des croyances, des religions. Oui.
Écoutez, en tout cas, on vous souhaite plein d'autres rôles comme ça, mais pour tous ceux qui vous connaissent à travers ce que vous faites, vous êtes parfait là-dedans. Enfin, j'espère que dans la vie de tous les jours, vous êtes bien loin de ce personnage, mais ceci dit, vous êtes parfait là-dedans et merci d'être venu nous en parler. En tout cas, au revoir et puis bonne chance à La trahison de la providence divine, parce que c'est bien parti.
Merci David. Au revoir.
À bientôt. Au revoir.
Bye bye.
Tu vois, t'étais la seule personne en qui j'avais vraiment confiance, de qui jamais j'aurais cru douter. Overdose de conscience. Pourtant t'étais devenue ma sœur de cœur. Personne n'aurait dû nous séparer. Destinée ou malchance, tu vois j'ai beau chercher les raisons, mais ce que tu m'as fait j'ai pas cautionné. Maintenant j'ai plus confiance. Même si ça fait 2 ans que ça s'est passé, même les détails j'ai pas oublié. Pourquoi ça fait si mal d'avoir été trahie par ma seule amie, la seule à qui j'ai confié ma vie, comme si c'était normal. T'as cru que comme ça j'allais tourner la page, mais c'est pas fini, j'ai toujours la rage. Trompé par mon cœur, trahi par ma sœur, la seule en qui j'avais foi, confiance, et celle qui m'a menti. Aujourd'hui enfin est venue. yeux, tu vois plus personne, tu dis que t'es seule. Et ça, ça te fait peur.
Ça te fait peur quand il y a
plus personne pour t'écouter, pour t'épauler. T'as perdu ta petite sœur.
Celle qui croyait dur ton amitié, mais à croire que toi, tu sais pas ce que c'est.
Celle qui passait des heures au fun à t'écouter pleurer pour lui, j'ai pas fini.
Je veux que tu comprennes combien j'avais de la peine le soir où je t'ai vu coucher avec lui. Tu pouvais pas trouver quelqu'un pour toi, fallait que tu viennes le chercher dans mon lit. Trompé par mon cœur, trahi par ma soeur, la seule en qui j'avais foi, confiance, c'est celle qui m'a menti. Aujourd'hui enfin est venu ton heure.
T'étais la seule. J'ai pas compris comment t'as pu. T'aurais pas dû. T'aurais jamais dû.
T'aurais jamais dû. Trompé par mon cœur, trahi par ma soeur. La seule en qui j'avais foi, confiance, c'est celle qui m'a menti. Aujourd'hui enfin.
On vient d'entendre Amel, Vita et Camélia qui chantaient « Ma sœur ». Il faut que je te dise un mot, Fulgence, et puis à vous tous aussi. Donc, Jérémy Tori, qui est un Ojibwe, qui est un peuple autochtone, c'est le troisième plus important des États-Unis après les Cherokees et les Navajos. C'est un porteur de pipe traditionnel. Voilà. Donc,
un porteur de pipe traditionnel.
Oui. Tu sais, la pipe, la grande pipe qu'on prend dans les peuples des Premières Nations pour fumer, pour le... Voilà. Le calumet, si tu veux, qui a été traduit comme ça. Mais c'est un porteur de pipe, ça s'appelle.
OK.
En fait. Ouais. Voilà. Donc, très intéressant. Ça aide à comprendre un petit peu plus le regard qu'il a mis sur cette histoire et comment il l'a filmé.
Ah, j'ai hâte de voir.
Oui.
J'ai hâte de voir ça. Il sort demain, alors, de toute façon.
C'est... Voilà, donc vraiment intéressant. Et merci à David Lay d'avoir passé du temps avec nous pour nous en parler.
Mmh. Hein? On va dire merci aussi à la jeune réalisatrice québécoise, Sarah El Abed, pour le court-métrage documentaire Il n'y a pas d'heure pour les femmes, dans les salons de coiffure dont sa grand-mère est. Une cliente régulière, quoi, voilà.
Voilà, donc c'est bien deux choses à voir qui sont totalement différentes et je comprends et je compatis aussi aux artistes, aux comédiens de cinéma et de théâtre quand ils jouent des rôles qui sont très lourds et très importants de pouvoir sortir après, oui, c'est ça.
C'est pourquoi je lui ai posé la question, parce que quand tu as commencé à décrire le personnage, je me suis dit, mais comment il se sent lui après le tournage?
C'est ça. Mais comme tu le vois, il se sentait pas mal quand même. Donc, merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés. J'espère qu'on vous a donné le goût et d'aller voir le court-métrage documentaire et d'aller voir le film. En tout cas,
vois,
l'un comme l'autre sont bons.
Arlette, ça a été une émission spéciale cinéma. Hein.
Ça a été une émission spéciale cinéma. Merci.
Allez,
Maurice Bolduc pour la musique, pour les chansons. Et puis à toi, Fulgence, je te dis à demain.
Rendez-vous demain,
même jour, même heure. Rendez-vous avec vous toutes et vous tous si vous continuez à nous suivre. À bientôt.
Et n'oubliez pas, suivez-nous et réécoutez-nous du lundi au samedi, du mardi au samedi.
Oui.
À 5h du matin.
Levez-vous tôt ou couchez-vous tard. Au revoir. Voilà. Bye.